Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, et maintenant, la Grèce a désormais un nouveau Premier ministre, Alexis Tsipras, une nouvelle majorité très à gauche et très critique envers Bruxelles. Sur le reste du continent, dans les rangs de la gauche radicale, on applaudit et on voit se profiler déjà une nouvelle Europe qui dirait non à l'austérité. Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Tous les regards se tournent désormais vers l'Espagne et le fameux parti issu du mouvement des indignés, Podemos.
Pour le moment, Podemos en Espagne est le seul parti à la gauche de la gauche qui a de réelles chances d'arriver au pouvoir. Podemos est aujourd'hui au coude à coude dans les sondages avec le parti conservateur au pouvoir et il devrait bénéficier de la victoire de Syriza. 27% des Espagnols feraient confiance à son leader Pablo Iglesias pour diriger leur pays. Et cela dans un proche avenir puisque il doit voter en mai prochain lors des élections municipales et régionales, puis en novembre pour les législatives. Pablo Iglesias est un universitaire, professeur de sciences politiques, devenu populaire en dénonçant les conséquences sociales de la crise économique et d'une classe politique corrompue. Issu du mouvement des indignés, Podemos est un tout jeune parti fondé il y a seulement un an. Quant à Pablo Iglesias, il a 36 ans, un peu plus jeune encore donc qu'Alexis Tsipras. Iglesias s'affirme cependant comme étant plus antilibéral et anti-système que le nouveau chef du gouvernement grec, même s'ils ont tous les deux commencé à militer très jeunes dans les rangs des jeunesses communistes de leur pays. Mais il est intéressant de noter qu'Alexis Tsipras a préféré s'allier pour former son gouvernement au petit parti souverainiste de droite des Grecs indépendants, plutôt qu'avec ses anciens compagnons de route communistes du KKE. Pas sûr néanmoins que cela rassure Angela Merkel.
Il n'y a donc pas d'autres pays où la gauche radicale est en position de force ?
Non, pas vraiment. Mais dans les pays du sud de l'Europe, pays les plus durement touchés, on le sait, par la crise économique, les cartes politiques peuvent facilement être rebattues. Les électeurs sont en quête de changement et sont prêts à renverser la table pour que la situation s'améliore enfin. Cela explique le succès foudroyant de Syriza et Podemos, partis qui promettent de desserrer l'étau de la dette et affirment qu'une autre politique économique est possible. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Au Portugal, par exemple, le bloc de gauche, qui est issu de la fusion de plusieurs partis d'extrême gauche à la fin des années 2000, a obtenu jusqu'à 10% des suffrages aux législatives de 2009, puis a décliné. Un nouveau parti, d'ailleurs plus alternatif qu'anti-système, a vu le jour il y a 2 ans, baptisé Livré pour Liberté, Gauche, Europe et Écologie. Il avait pour ambition de rassembler les déçus de la gauche, mais il est resté marginal.
En Italie, Beppe Grillo s'est lui aussi positionné comme le candidat anti-système.
En Italie, Beppe Grillo a effectivement catalysé le mécontentement populaire en créant fin 2009 le mouvement 5 étoiles. Il a bâti son succès en dénonçant la corruption généralisée et en refusant les alliances avec les partis traditionnels. Mais son égocentrisme et son populisme au fort relent xénophobe finissent par lasser. Après avoir obtenu plus de 25% des voix aux élections législatives en 2013 et encore 21% aux européennes, où on s'en souvient, il avait été très largement distancé par le parti démocrate du chef du gouvernement italien Matteo Renzi, Cinque Stelle a décliné et la contestation interne s'amplifie dans le mouvement. Même si dernièrement il est légèrement remonté dans les sondages, il n'est plus crédité que de 18% et l'on n'oublie pas sa déconfiture lors des dernières élections régionales en Calabre où il s'est effondré jusqu'à 4%. Un déclin qui, pour l'heure, profite surtout à Matteo Salvini, qui est le nouveau leader des nationalistes de la Ligue du Nord, qui recueille 30% d'opinion favorable. Quant au petit parti de gauche écologie liberté, SEL, son attitude ambiguë vis-à-vis du Parti démocrate le fait plafonner pour l'instant autour de 4%.
Et en France ?
En France, le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui a réalisé 6,6% des voix aux européennes, mise sur un effet domino. Il estime que la victoire de Syriza sera contagieuse et qu'elle prouve que l'Europe peut être refondée sur de nouvelles bases et ne plus être soumise aux diktats allemands. Mais malgré ses talents oratoires, le passé d'ex-cacique socialiste de Jean-Luc Mélenchon est un handicap pour convaincre, malgré sa récente tentative de rapprochement avec les Verts, ou plus exactement avec Cécile Duflot.
Et au pays d'Angela Merkel, y a-t-il un parti proche de Syriza ?
Bah, c'est sans l'ombre d'un doute Die Linke. C'est d'ailleurs le seul parti allemand à s'être félicité de la victoire de Syriza. Créé en 2007, ce parti a été fondé sur une alliance entre des contestataires du parti social-démocrate et des anciens du parti communiste est-allemand. Mais il est peu probable que Die Linke puisse profiter de la nouvelle donne en Grèce dans un pays où la chancelière a le soutien indéfectible d'une immense majorité de ses concitoyens.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Voilà plus de 15 ans qu'un accord de paix a été signé en Irlande du Nord, mettant fin à 30 ans de guerre civile. Mais sur le terrain, les tensions sont toujours prêtes à éclater entre les plus radicaux des deux camps, loyalistes et républicains. C'est le cas depuis un an et demi dans le nord de Belfast, dans un campement de manifestants protestants qu'on appelle désormais le camp Twaddle. Les unionistes se relaient 24 heures sur 24, sous protection de la police, pour réclamer le droit de pouvoir manifester comme ils l'entendent cet été pour les traditionnelles marches orangistes. Une démonstration de force qui provoque des échauffourées avec des militants catholiques républicains. Reportage au camp Twaddle, signé Sébastien Duval.
C'est chaque soir la même musique. Membres de l'ordre d'Orange et représentants de la communauté protestante reprennent leur parade à l'endroit même où elle a été interrompue le 12 juillet 2013. Et comme toujours depuis cette date, le cortège se heurte irrémédiablement au même cordon policier qui leur barre la route jour après jour. La scène pourrait avoir un certain comique de répétition si la situation n'était pas aussi tendue. Le porte-drapeau Gérald Solinas est en première ligne face aux véhicules blindés de la police.
Il y a entre 5 ou 6 Land Rover juste en face de nous. Et au total, on en compte environ 25 tous les soirs. À raison de 5 par voiture, ça fait autour de 125 policiers. Ce n'est pas nécessaire selon nous, mais à cause des extrémistes républicains qui utilisent lance-grenades et AK-47, il est essentiel que la police soit présente afin de protéger la population. Elle est également là pour faire respecter la décision de la commission des parades.
Hautement politique, les parades font partie du folklore nord-irlandais. Des dizaines de défilés sont organisés pendant l'été par les deux camps, protestants et catholiques, afin de marquer des dates clés de l'histoire de la province. La plus importante côté loyaliste est celle du 12 juillet. On y commémore la victoire du roi protestant Guillaume III d'Orange sur le catholique Jacques II au XVIIe siècle. Elle est perçue comme une provocation par la communauté catholique de Belfast. Afin de minimiser les risques d'incidents, une commission indépendante est donc chargée de superviser les parcours. C'est elle qui a interdit en 2013 à Gérald Solinas et ses camarades d'emprunter une portion de route de quelques centaines de mètres à proximité d'un quartier catholique.
Seules une vingtaine de maisons catholiques sont concernées, et la majorité d'entre elles ne sont pas opposées à ce que nous défilions ici. D'après une récente enquête, ils ne sont que 25% à avoir un problème avec notre parade. On ne demande pourtant que 6 petites minutes de respect, le temps qu'il nous faudrait pour passer. Le Sinn Féin milite pour une Irlande égalitaire, c'est son slogan. Mais où est l'égalité si les protestants sont privés de leur culture ?
Depuis l'été 2013, les unionistes protestants se mobilisent pour faire changer d'avis la commission des parades. Voilà désormais 564 jours qu'ils se relèvent 24 heures sur 24 dans un camp de l'avenue Twaddle, au nord de Belfast. Une odeur acide de soupe de pois chiche embaume le préfabriqué, à côté de la caravane où les veilleurs de nuit montent la garde. Fièrement dressé entre deux portraits de la reine Elisabeth, l'Union Jack couvre le mur de la cuisine, où Jacqueline Elliott prend soin des hommes à leur retour.
Il y a toujours beaucoup de monde au camp, des centaines de personnes qui vont et viennent, parfois même de très loin. Nous avons déjà eu la visite d'Écossais et de Canadiens. Quand il fait très froid, comme ce soir, il faut remonter le moral des troupes et essayer de détendre l'atmosphère. Une fois qu'ils sont rentrés, je leur sers un peu de soupe pour qu'ils se réchauffent l'estomac. Ils me disent souvent qu'ils n'auraient jamais tenu aussi longtemps si je n'avais pas été là.
Situé à la périphérie du quartier d'Ardoyne, un important bastion nationaliste, le camp Twaddle est régulièrement la cible d'attaque. Aucun incident à signaler ce soir-là. Les températures négatives ont refroidi quelques ardeurs. Mais en novembre dernier, une voiture de police a été attaquée au lance-grenades artisanales. Un avertissement sérieux pour les hommes de l'inspecteur en chef, Bobby Singleton.
Il y a malheureusement un certain nombre de gens déterminés à montrer leur opposition au processus de paix et qui conduisent ce genre d'attaque contre les forces de sécurité. Alors cela peut prendre la forme de tirs d'armes automatiques sur nos véhicules. Une bombe artisanale a également été posée sur la route pour atteindre la police. La menace est réelle pour l'ensemble des agents qui se rendent dans cette partie de la ville. En tant qu'inspecteur en chef, il est de ma responsabilité d'assurer au mieux leur sécurité.
L'importante présence policière autour du camp Twaddell pose un autre problème majeur, son coût. Selon les médias locaux, il s'élèverait à environ 50 000 euros par soir.
On a peut-être atteint ce chiffre à un moment donné, mais il est désormais bien inférieur à ça. En tant que service public, nos opérations sont constamment réévaluées afin d'avoir le meilleur rendement possible, sans gâcher l'argent du contribuable. Évidemment, on essaye de réduire les dépenses, mais il ne faut pas oublier les raisons pour lesquelles nous sommes sur place. Quel que soit le coût, on ne peut pas se permettre de mettre en péril la sécurité du public et des policiers.
La très délicate question des parades divise la classe politique nord-irlandaise depuis des années. Une table ronde regroupant les principaux partis de la province devait être constituée prochainement pour se pencher sur le sujet. Mais la secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord, Theresa Villiers, a fait machine arrière en décembre dernier. Les loyalistes du nord de Belfast devront encore passer quelques nuits glaciales derrière les grilles du camp Twaddell.
Allô, allô, ne quittez pas les grilles.
C'est une des ironies du marché unique européen. Les délocalisations ne concernent pas seulement l'Est de l'Europe, mais aussi l'Espagne, dans le sud du pays, sur la Costa del Sol. On ne compte plus les call centers scandinaves qui trouvent là des conditions plus rentables pour exercer leur activité. À Madrid, François Musso.
La vente de systèmes d'alarme en Suède, les rotations entre les pilotes et les hôtesses dans les lignes aériennes norvégiennes, la régularisation de l'inspection technique des automobiles en Suède, la vente de matériel informatique en Finlande, et on pourrait poursuivre longtemps cette liste, eh bien toutes ces activités sont traitées et gérées à distance par Internet depuis la Costa del Sol, la côte du soleil en Andalousie. En particulier à Malaga, la ville natale de Picasso, où on compte 3 entreprises scandinaves de ce type, Call4You, One Contact et Runaway. Des dizaines de salariés passent leur journée, le casque vissé sur les oreilles, à gérer les flux qui se produisent dans la lointaine et froide Europe du Nord. Tous ces salariés sont eux-mêmes scandinaves et se réjouissent de leur qualité de vie. Sur la Costa del Sol, il fait soleil et doux presque toute l'année, y compris en novembre ou en décembre. Certes, les salaires sont moins importants que là-bas, mais chacun y trouve son compte. Les entreprises qui se délocalisent dans ce sud européen profitent donc d'une main-d'œuvre moins chère. Elles versent moins d'argent à la sécurité sociale espagnole qu'elles ne le feraient dans leur pays d'origine. Et puis, les journées de travail sont plus longues. De leur côté, les salariés aussi se frottent les mains. Outre le climat, un bon système de santé, la vie n'est pas chère sur la Costa del Sol, la vie sociale est animée et plus chaleureuse. On peut comprendre alors que ces sociétés ne cessent d'affluer le long du littoral espagnol de Barcelone à Cadix. Il y a fort à parier que le télémarketing scandinave a ici de beaux jours devant lui.
Merci Edgar.
Madame, ne puis-je prendre le paquet de madame? Il me paraît beaucoup trop lourd pour madame.
Allons, allons, Edgar, ne faites donc pas tant de zèle.
On les croyait définitivement rangés au placard des lubies aristocratiques, les majordomes. Ces super concierges, aussi efficaces qu'invisibles, prêts à tout pour répondre aux moindres besoins de leur employeur, retrouvent une nouvelle vie. Les particuliers les plus fortunés font toujours appel à leurs services et il existe à Bruxelles une école de majordomes. 4 semaines de cours facturées 7000 euros. Barbara Schall a suivi ses apprentis qui se destinent à servir les plus riches de la planète.
Nous sommes dans un prestigieux hôtel bruxellois. Dans la salle de réception, 4 élèves majordomes dressent la table, 1 mètre à la main, couvert en argent, assiette en porcelaine et verre en cristal. Rien n'est laissé au hasard.
On fait une formation de 4 semaines. Il y a 2 semaines ici à Bruxelles et 2 semaines en Anvers, dans un château du 18e siècle.
Vincent Vermeulen est le directeur de l'école. Les 4 élèves inscrits pour cette session ont entre 28 et 42 ans. 2 Belges, 1 Français et 1 Marocain. Ils ont 1 mois pour devenir de parfaits majordomes.
Comment est-ce qu'on va entretenir un garde-robe? Comment est-ce qu'on va parler au patron? Comment est-ce qu'on va gérer les animaux? Il faut savoir tout au niveau de l'événementiel, la chasse, des mariages, etc.
Alors je vous présente un carpaccio de saumon. Bon appétit à tous.
Costume noir, cravate rouge, gants blancs, les gestes parfois encore maladroits. Les élèves font mine de servir le repas, un exercice sous l'œil critique de leur professeur.
Ils sont en train de débrasser les assiettes à pain avec le couteau. Et vous voyez qu'on utilise toujours un plateau.
Et là, on voit qu'ils essayent d'être très silencieux, très, très discrets.
Oui, voilà, vous avez bien compris, oui.
Il faut se faire remarquer le moins possible, en fait.
Exactement, c'est ça.
La principale qualité du majordome, sa discrétion, sa capacité à se faire oublier, même si toute la soirée repose sur ses épaules. Vincent Vermeulen.
C'est en fait le but d'un majordome, de sauver la situation avec une certaine phrase qu'aucune personne dans cette situation est gênée.
Un exemple?
Alors, par exemple, quelqu'un qui est dans la maison, qui a bu un peu trop, c'est en fait le majordome qui va discrètement inviter le monsieur dehors du chambre et lui expliquer que monsieur et madame lui invitent dans une autre chambre pour continuer la soirée.
Monsieur, désirez-vous de l'eau plate ou de l'eau gazeuse?
Juste un tout petit peu, s'il vous plaît.
De l'eau plate?
S'il vous plaît, oui. Merci bien.
Voilà, monsieur.
Travailler dans l'ombre, rester invisible, un rôle que les apprentis majordomes sont tout à fait prêts à endosser, Sidali Zegouane.
Je pense que c'est flatteur de ne pas avoir été remarqué, de ne pas avoir fait de bêtises, fait tomber quoi que ce soit, un couvert au sol ou rien qui peut perturber la tranquillité des invités.
Wim Marwoud, un autre élève majordome.
Le temps qu'on passe avec notre maître, c'est peut-être 10% de notre travail. Et à part de cette 10%, on fait plein d'autres travails pour lesquels on est reconnu par l'autre membre de l'équipe de la maison. Il y a plein de reconnaissances par d'autres gens.
Être majordome, c'est aussi accepter sans broncher un certain rapport de classe, Sidali Zegouane.
On a réfléchi à ce qu'on veut être et il n'y a pas de jalousie à avoir. Moi, par rapport aux clients que je côtoie dans l'hôtel, qui sont soit des stars ou autres, ou des gens très riches, ou peu importe, qui ont de belles voitures, et ben c'est comme ça, il n'y a pas à être jaloux. Faut pas, surtout pas avoir cette sensation ou ce petit défaut à mon goût qui est un défaut d'envier, parce que sinon on le vivra mal à mon avis.
Quand on va servir du champagne, je vais exagérer que vous voyez bien. Par exemple, on va servir comme ça et en même temps on va tourner pour la mousse. Ok?
Cette fois, les élèves travaillent tous dans l'hôtellerie de luxe ou dans l'événementiel, mais il n'est pas rare que des graphistes ou des informaticiens décident de se reconvertir. Presque tous espèrent travailler dans une grande maison pour des particuliers richissimes. Vincent Vermeulen.
C'est le monde de luxe un peu quand même, mais à mon avis, c'est aussi, franchement, le monde des majordomes, c'est encore toujours quelque chose de mystérieux. Parce que bon, c'est quoi un majordome? Qu'est-ce qu'il fait chaque jour? Et ça attire les gens, beaucoup.
Encore de quoi entretenir le mystère autour de la profession. Le métier de majordome n'a jamais vraiment changé. La classe des grandes maisons britanniques a traversé les siècles, même s'il a fallu s'adapter à l'arrivée des nouvelles technologies.
Il y a peu évolué de tout ce qui est, par exemple, service, comportement, parler à son patron, etc. Mais bien sûr, il y a des autres choses qui ont changé. Un majordome qui va rouler un Bentley, par exemple, c'est une voiture qui est pleine de technologies, il faut connaître. Même les maisons, tout est computerisé. Mais à côté de ça, la base, ça reste très classique.
À en croire les responsables de la formation, les majordomes restent très recherchés en Europe, mais aussi en Chine ou en Russie. De riches particuliers très friands des services de majordomes européens. Un débutant peut espérer gagner 2500 à 3000 euros net, sans compter les avantages. Le revers de la médaille, être très disponible pour son patron, parfois 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur Facebook. Dans quelques instants, un nouveau rendez-vous avec l'actualité sur RFI.